Bonjour à tous. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons dans l'émission Rencontre sur Radio Accor, en partenariat avec l'Association des Amis des Chemins de Saint-Jacques en Vienne.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle.
Je m'appelle Joseph et aujourd'hui nous recevons Jean-Luc avec qui nous allons parler de l'après-chemin. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Joseph.
Alors Jean-Luc, vous avez fait un ou plusieurs chemins ?
Alors j'ai fait un premier chemin en 2007 de Poitiers jusqu'à Compostelle et en 2009 j'ai fait la voie du Puy, c'est-à-dire le passage du Puy-en-Velay jusqu'aux Pyrénées.
Pyrénées avant ou après les Pyrénées ?
Juste avant les Pyrénées.
Donc il vous reste à passer les Pyrénées ?
Il me reste à continuer à partir de Saint-Palais pour faire un lien avec le chemin qu'on appelle le chemin du Nord qui longe les côtes.
Et vous avez quelques motivations pour faire ces chemins ?
Alors, la première motivation qui m'a amené sur le chemin en 2007 était... pour un passage de changement de situation de vie, c'est-à-dire un passage à la pré-retraite, la volonté de changer d'état, de rentrer dans un autre espace d'occupation et aussi par rapport au temps, c'est-à-dire de pouvoir, sachant que la plus belle ou la plus grande des richesses est la liberté par rapport au temps, de pouvoir l'occuper autrement que sur les mécanismes que j'avais connus dans le monde du travail. Et je dois reconnaître que le chemin m'a apporté cette possibilité.
Donc vous avez fait deux chemins ?
Oui.
L'été, l'hiver, au printemps ?
J'ai fait un chemin d'automne et j'ai fait un chemin d'été. Donc j'ai bénéficié d'une variante des saisons dans des cadres différents d'Espagne et de France. Donc ça, c'est aussi... des magnifiques motivations qu'amènent souvent les pèlerins après avoir fait un premier chemin d'en faire d'autres pour les fêtes sur d'autres conditions climatiques.
Et à chaque fois, la durée a été la même ?
Non, la première fois, je suis parti pour 2 mois. Et puis la deuxième fois, j'ai eu cette nécessité que l'on peut avoir de raccourcir le chemin en étant obligé pour une contrainte de revenir entre-temps. C'était une sensation que je ne connaissais pas, celle d'arrêter en cours, donc de quitter le groupe dans lequel on est, c'est-à-dire ce village mobile qui se forme sur cette concentration forte que peut être la voie du Puy en termes de pèlerins, donc de quitter ce village qui bouge pour rentrer et après revenir une autre fois, intégrer un nouveau village avec de nouveaux habitants qui bougent. La première fois, j'avais eu... justement le plaisir d'aller jusqu'au bout d'une seule fois. Et ma foi, ce n'est pas une sensation agréable, cette sensation d'arrêter en cours.
Vous avez eu un avant et un après.
J'ai
en
eu...
En plein milieu.
ouais, entre l'avant et l'après, oui, il y a effectivement ces éléments-là. Mais bon, sur le chemin, une fois qu'on a souvent fait le chemin... on reste en fait plus ou moins toujours dans le chemin. Une fois qu'on l'a fait, pour beaucoup, j'entends, pour beaucoup de personnes, on reste dans le chemin. La plus grande chance que j'ai eue à travers mon premier chemin est de faire, en faisant par la voie du Tour, un passage qui, pendant 15 jours, me permettait d'être seul. Et donc, comme on n'est jamais seul avec la nature... on a une partie très très forte de constitution, d'une modification de soi en harmonie avec la nature qui est autour de soi. Et on prend conscience combien on est une composante de cette nature. Ce qui est fantastique quand après on se retrouve en Espagne, où il y a plein de monde, pour justement pouvoir être affûté pour justement avoir cette bienveillance de communication et ce plaisir d'échanger avec eux. Ça, c'est une grande chance. Il y a des grandes voies, comme le chemin français, le Camino Francés, ou la partie entre le Puy et Conques, où vous avez beaucoup de passages. On dirait presque péjorativement autoroute à pèlerins. Et puis, vous avez toutes les autres voies où l'homme marche davantage seul. Il est bon de connaître les deux, c'est vraiment important. Sinon, on ne connaît qu'une partie. Il faut mieux pouvoir avoir goûté les deux.
Est-ce que le marcheur, parce qu'on est marcheur, là, est identique à l'arrivée ou au départ? Ou au départ et à l'arrivée, comme vous voulez?
Je crois réellement que le point commun le plus important entre le pèlerin du Moyen-Âge et le pèlerin d'aujourd'hui, quelle que soit sa motivation pour faire le chemin maintenant, et qu'en fait l'homme qui a fait ce chemin devient réellement un pèlerin en finale, je ne trouverai pas d'autre terme, car il est une personne totalement différente. Il est quelqu'un qui a eu certaines réponses peut-être à des questions qui se trouvaient, mais qui s'est trouvé face à des nouvelles interrogations qui le motivent. Et puis, comme il a reçu énormément de la nature, des hommes et aussi de choses qu'il voit ou qu'il peut percevoir pour une grande partie d'entre eux, eh bien, il a envie de le répercuter, de le redonner aux autres. Donc, il est totalement différent.
Est-ce qu'il y a un chemin ou des chemins? Je sens qu'il y a des petites différences.
Il y a autant de chemins que de pèlerins, et il y a autant d'avant-chemins que de pèlerins, et d'après-chemins que de pèlerins.
Vous pouvez expliquer un peu?
Il y a un parallèle avec la vie, hein, parce qu'il y a un déroulement, et ce déroulement se fait par des hasards, se fait par des propres recherches. Alors évidemment, il y a quelque chose qui se déroule sur ce point, mais c'est vraiment très très personnel. La modification est très personnelle, elle est liée à des doses de spiritualité, à des doses de psychologie, elle est propre à chacun. Ce qu'en fait la beauté, ce qu'en fait la beauté.
Est-ce que vous pensez que sur un GR autre que les chemins de Saint-Jacques, ça, là, on retrouve la même chose?
Alors, c'est vrai que c'est assez différent, mais c'est très... Sur une partie, par exemple, sur la voie du Puy, vous avez une cohabitation entre des gens qui vont être randonneurs au départ, et puis d'autres qui partent avec une notion pèlerin, il y a une très très bonne communion qui se fait. Donc, c'est vrai aussi que vous avez des personnes qui, ma foi, en quelques jours, vont changer, vont découvrir des choses en elles. Alors, le principal, c'est ça, je crois que... Oui, le principal, c'est effectivement la mutation, la migration, les plus-values qu'ils peuvent se prendre par rapport à ce point. Je pas de jugement, en fait, simplement prendre.
Mais là, vous parlez d'un chemin dont il y a identité entre un GR et un chemin de pèlerinage. Moi, je pensais à un chemin GR, grande randonnée, qui n'est pas un chemin de pèlerinage. Type Tour du Mont Blanc ou Tour de Mont quelque chose.
Je crois. Un chemin de pèlerinage a en soi un objectif final qui n'est pas le même. C'est-à-dire, quand vous faites un GR, bien sûr, il y a aller au bout du voyage. Quand vous êtes sur un chemin de pèlerinage, vous êtes sur un chemin qui est beaucoup plus ancien. Il existe souvent depuis 1000 ans, depuis très longtemps, et on a tout à fait toujours cet imaginaire de marcher sur les pas des autres. Et puis vient à cet imaginaire la projection que les autres aussi vont mettre leurs pas derrière vous. Donc ce contexte-là, qui devient, je dirais pas obsessionnel, mais très important dans le quotidien, et pour beaucoup d'une sensation qu'on ne peut pas avoir sur un GR, qui est quand même un passage dans un marquage très contemporain. En plus, bon, la dimension purement sportive, du nombre de kilomètres par jour, du nombre de vitesses, je dirais même éventuellement pour certains, du nombre de pas que peut représenter la distance pour partir d'un point A vers un point B, est quand même secondaire. C'est-à-dire que dans le pèlerinage, les gens sont assez dans la force d'être dans le moment, et non pas dans la notion arrivée-départ, mais dans le moment où on chemine.
Donc, si j'ai bien compris, la spiritualité et la philosophie sur un chemin de pèlerinage est différente de celle d'une grande randonnée.
Oui, puis il y a aussi la présence, bien sûr, l'omniprésence même des traces, hein, les traces romanes, les traces gothiques, les croix, les marquages, tous ces signes, signes visibles, signes que d'autres vont ressentir, signes invisibles, etc. et tout. Après, ça, c'est très personnel, mais il y a effectivement ces traces-là qu'on ne trouve pas sur le GR20. On trouve d'autres charmes, mais c'est autre chose.
Donc, on rentre dans le, enfin dans le, je dirais, le vif du sujet. Donc, il y a après le chemin, je crois qu'il y a deux phases d'après le chemin. Il y a l'après-chemin immédiat et puis l'après-chemin à long terme, l'arrivée à Santiago, les quelques jours après, et puis beaucoup plus tard.
Oui, il y a vraiment ces deux phases. C'est vrai, on peut s'interroger pour savoir quand commence l'après-chemin, quand s'arrête le chemin, quand s'arrête cette sensation, quand va-t-on être coupé de cette donnée. Et puis, donc là, il y a cet atterrissage qui doit se faire, faut le souhaiter, souvent le plus en douceur. Des fois, il arrive que des jambes pas préparées soient dans l'obligation, après 2 mois de marche, avec tout le plaisir et que ça apporte, d'être obligé de sauter dans un avion pour se retrouver dans une vie trépignante professionnelle. C'est souvent des déboires, c'est même très dépressif, en fait, hein, comme choc. Et je dirais, si j'ai un conseil à donner, c'est d'éviter cela, mais de justement de pouvoir prévoir un sas de temps pour justement se réintroduire dans une vie normale.
Donc, si je comprends bien, il vaut mieux éviter l'avion pour le retour et revenir à pied.
Ça, c'est... Il y en a pas tant qui le font. Il y en a pas tant qui le font. Il y en a qui le font, pas tant. Mais c'est vrai que ça se faisait énormément et obligatoirement, enfin, au Moyen-Âge. Quoique souvent, certains s'arrêtaient en chemin pour y refaire leur vie. Mais oui, c'est vrai que revenir, par exemple, en transport, en car ou autre, permet de rembobiner la bobine du film et puis de se retrouver à repasser sur les endroits où on est passé à pied. Et puis sinon, rester pas mal de temps à Santiago est une chose agréable. Pendant 3 jours, vous connaissez tout le monde parce que vous avez marché à un rythme. Il y en a qui vous ont doublé, ont ralenti. Sur 2 mois derrière, vous êtes obligatoirement en fait en contact. Donc il y a 3 jours de liesse, il y a 3 jours de « je suis content de te voir », etc. Et puis, il y a cette prise de conscience qu'on va se séparer. On sent qu'on les revoit, mais quelque part, on ne va pas les revoir longtemps, qu'il va falloir retourner chacun sur ses terres. En Corée, au Québec, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, partout. Et puis, au bout de ces 3 jours, il y a le quatrième. Et le quatrième, eh bien, on ne connaît plus ceux qui arrivent, on ne les a pas vus. Ou alors, ça s'étiole, il y en a très très peu. Donc là, on est un peu en transit, on est sur un quai de gare, c'est-à-dire on n'est pas un Galicien, on n'est pas quelqu'un de la ville. Mais on n'est plus, franchement, le pèlerin. On est dans un entre-deux. Alors, c'est un bon moyen pour éventuellement savourer les plaisirs de cette ville. Moi, j'ai eu le plaisir d'y rester 6 jours. Et ma foi, il y a pour 6 jours de choses à voir entre, évidemment, toutes les différentes traces jacquaires, les magnifiques musées de la Galice et autres. Bon, il y a d'autres personnes qui, arrivant à Compostelle, qui est une ville de grande concentration touristique, sont parfois choqués par le nombre de personnes qu'il y a, de touristes, vu qu'il y a, en fait, c'est vrai, 4 fois plus de touristes que de pèlerins, quand même, hein, et qui, ma foi, ne peuvent pas trouver la satisfaction à clôturer leur chemin à Compostelle. Alors, ils continuent pendant 2 jours, et puis ils vont jusqu'à un endroit qui s'appelle Finistère, et là, dans un rituel... face à la mer, parce que c'est quand même pas mal de marcher et puis de se retrouver justement face à l'Atlantique, eh bien ils vont retrouver la symbolique qu'ils peuvent attendre pour clôturer leur voyage. Voilà, ça c'est, je dirais, une autre façon de clôturer ou de finir son chemin. Mais l'après, c'est-à-dire tant qu'on est sur le chemin, on est sur une voiture qui a un moteur qui s'appelle le chemin, la force du chemin de Compostelle, et après, quand on a arrivé ce chemin-là, de pouvoir prendre son véhicule et créer son propre moteur pour communiquer l'énergie autour de soi.
Vous écoutez l'émission Rencontre sur Radio Accor. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Luc, avec qui nous parlons de l'après-chemin. Donc maintenant, vous êtes rentré chez vous et parlez-nous donc de l'après-chemin à partir de la maison, je dirais.
Oui. Alors là, l'après-chemin après la maison, il va prendre différents états. Déjà, physiquement, on peut dire. Quand on arrête de marcher, à très court terme, en fait, pendant 3 jours, on est complètement encore physiquement dans cet état. Et puis, à partir du 3e ou du 4e, il y a un jour, comme ça, j'ai oublié le terme espagnol, mais où on commence à ressentir les douleurs. C'est-à-dire, on a des petites douleurs qu'on connaissait qui reviennent. C'est-à-dire, la machine à marcher qu'on est devenu, c'est-à-dire, en fait, on a redécouvert en soi, on a réveillé en soi, peut-être, cet homme d'autrefois, d'il y a très longtemps, peut-être plus proche de Lucie que du contemporain qu'on est, qui, en fait, passait son temps à marcher tous les jours. Et donc, on est une bête à marcher. Alors, il faut qu'on marche. Tous les jours, il faut qu'on marche. On est là, il faut trouver où est-ce qu'il y a 15 km que je puisse marcher aujourd'hui, parce que sinon, je ne serais pas bien. Donc ça, c'est un premier élément. Et il faut pouvoir, je dirais, le considérer. Donc, il y a cette base-là, cette première base qu'il y a. Après, vous avez bien sûr le plaisir, le désir de retrouver ceux qui sont autour de vous et qui sont heureux de vous revoir. Hein. Je veux dire, mais il y a aussi cette liesse qu'il peut y avoir souvent quand des gens de votre famille vous rejoignent à Compostelle et que vous les retrouvez sur place. Dans l'après-chemin, alors, c'est seulement quand on l'a fait. On ne peut pas trop dire ça à des gens qui ne l'ont pas encore fait, mais pour ceux qui l'ont fait, souvent, c'est vrai que pour faire le chemin, le plus beau est de partir de chez soi. Parce que quand on laisse ses clés à son voisin et qu'on revient complètement, la boucle se fait complètement. Donc l'après-chemin a cette notion de reprendre la clé qui rentre à nouveau dans la serrure et d'aller sur ce chemin-là. Au niveau même, sur les occupations d'après, une grande partie des personnes qui l'ont fait vont passer à autre chose. Ils vont marquer, bien sûr, une différence de leur état et autres, devenir peut-être un peu plus des sages, comme toute personne qui a fait un pèlerinage. Dans le monde musulman, on appelle un hajj, quelqu'un qui a été à la Mecque, hein, qui est devenu un sage. Alors, peut-être que souvent, les gens prennent une petite couche comme ça de sagesse, peut-être pas tant pour eux, mais dans le regard des autres, sur lequel, justement, ils peuvent renvoyer un peu quelque chose. Une bonne partie de personnes vont refaire d'autres chemins à travers des chemins de pèlerinage ou d'autres périples, oui, d'autres chemins de pèlerinage, les grands pèlerinages, Rome, il y en a qui vont faire jusqu'à Jérusalem. Ces chemins-là. Et puis, il y a la multiplication des chemins de Compostelle en Europe. C'est vrai que ce chemin, qui est aussi chemin culturel européen, est un enjeu maintenant, qui est un enjeu vraiment d'identification de l'Europe, sur laquelle, à travers tous les pays, vous avez moult chemins de Compostelle. En Espagne, vous en avez un qui s'appelle le chemin de la Plata, qui commence du sud de Séville. Vous avez le Camino del Norte. En France, vous avez les planos, les différents qui viennent de Bretagne. Vous avez une multitude de chemins. Donc là, il y a beaucoup de possibilités.
Mais à part les chemins, il y a d'autres activités ?
À part les chemins, oui, il y a d'autres activités. Il y a ceux qui quittent les chemins en tant que marcheurs et qui restent, qui viennent sur les chemins en tant éventuellement qu'hébergeants, par exemple, c'est-à-dire qui vont, pour certains, et ce sont des personnes magnifiques, qui vont quitter le cadre de vie dans lequel ils étaient et qui vont venir prendre une maison, s'installer sur un des endroits, un endroit qui leur convient, et avoir cette motivation à accueillir le pèlerin pour le recevoir et échanger avec lui. Autrement dit, ils vont continuer, non plus être de ces pèlerins mobiles, mais un pèlerin fixe, qui va continuer à vivre le chemin en accueillant les pèlerins. Ça, vous en avez beaucoup. vous avez d'autres personnes qui vont changer de profession, qui vont prendre une profession qu'ils auront découvert à travers des choses qu'ils ont vécues sur le chemin. Vous en avez qui vont devenir tailleurs de pierre, d'autres qui vont se mettre dans le milieu, par exemple, du vitrail, qui vont, d'autres, aller sur des modifications, des gens qui sont comédiens, qui vont donc monter des spectacles autour de ça, des musiciens aussi, bien sûr, qui vont enrichir leur patrimoine de ces éléments-là. Donc, vous avez même des journalistes célèbres qui modifient ou qui font des livres, bien sûr, autour de ça.
Et au point de vue associatif ?
Au niveau associatif, donc, une partie importante, qui est de plus en plus importante, prend conscience qu'avec le développement des chemins, il est nécessaire d'appuyer les collectivités dans la capacité à maintenir une évolution du chemin en tant que tel. Ce chemin est important, mais comme toute chose, il doit évoluer en harmonie par rapport à ce qu'il est. C'est-à-dire c'est un chemin de rencontre, de pèlerinage, sur lequel il est important pour un développement sociologique et touristique que des gens, en parallèle, puissent trouver une base économique. Mais ceci doit se faire d'une façon harmonieuse. Donc pouvoir, au niveau soit d'une communauté de communes ou d'un département, une collectivité, bien connaître le monde de ces pèlerins et pouvoir justement apporter ce qui est juste nécessaire pour que tout se fasse harmonieusement, est une tâche qui est intéressante, qui se fait de beaucoup d'associations jacquaires à travers la France. Et ça, c'est un rôle important sur lequel, justement, se continue aussi à œuvrer cette donnée-là. Et puis, vous avez, bien sûr, dans ces mêmes associations, des personnes qui vont héberger les pèlerins, qui vont accueillir et qui vont encourager. Et ce sera aussi pour eux un moyen de revivre ces moments merveilleux qu'ils ont connus là-bas sur cette donnée-là. Sur ce point justement d'association jacquaire, c'est aussi par rapport à des backgrounds, des cursus que vont avoir chacun, la capacité dans une structure de pouvoir apporter son savoir-faire au niveau du collectif, pour une animation et aussi pour une dynamique vis-à-vis de ceux qui ont envie de faire le chemin et de les conseiller, de leur apporter ce qu'ils conviennent pour qu'ils puissent se préparer et réussir au mieux, en fait, justement, ce qui sera leur voyage.
Nous terminons par cette émission les rencontres sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous pouvez réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site internet de Radio Accor, www.radio-accor.com. Chers auditeurs, nous espérons que ces rencontres sur les chemins de Compostelle vous ont captivé. À bientôt peut-être, sur les chemins. Merci et au revoir Jean-Luc.
Au revoir.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin, jour après jour.